L'éclairage sur vos stocks.
La guerre n'a pas un visage de femme se déroule à la Comédie du 18 au 20 février. Ça parle justement des femmes oubliées et effacées mais actives pendant la Deuxième Guerre mondiale en Russie. Je suis avec la metteuse en scène de cette pièce, Julie Deliquet. Salut Julie.
Bonsoir.
La Deuxième Guerre mondiale en Russie, historiquement, elle était appelée la Grande Guerre patriotique. C'est quand même quelque chose d'un petit peu paradoxal parce que quand on se dit que le patriotisme est quelque chose qui va concerner toute la population, surtout pour un gouvernement comme celui de l'URSS, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie justement qu'il y ait cette invisibilisation de ces voix féminines ?
Bah, c'est un grand sujet parce que, comme vous l'avez dit, c'est l'URSS, donc l'URSS est grand. Et là, on parle d'un million de femmes qui se sont engagées dans les différents corps de l'armée, qui ont été présentes et qui ont été volontairement invisibilisées en 45 et qui, d'ailleurs, pour retrouver une vie dite normale, ont dû taire ce qui leur était arrivé, taire leur héroïsme, leur souffrance, leur discours qui était aussi plus transgressif puisqu'il était moins patriotique celui-ci. Il était en tout cas, il sortait du discours officiel. Et quand Svetlana Alexievitch a retrouvé ses femmes dans les années 70, elle a fait un travail mémoriel unique et surtout elle a mis fin à 40 années de mutisme collectif.
Ce silence, il vient donc, comme tu l'as dit, d'une propagande parce que ces femmes engagées dans la guerre avaient un discours qui collait pas vraiment en fait à ce que le gouvernement voulait véhiculer.
En tout cas, ça, c'est plutôt quand elles ont pris la parole, parce qu'avant, la question ne s'est même pas posée, c'est-à-dire que on avait besoin de femmes, parce qu'on avait vraiment besoin d'humains dans cette grande guerre, et seulement après, on n'avait pas du tout envie de savoir que les femmes avaient fait la guerre. Les femmes, il fallait qu'elles reprennent une position de femme dans la société, et que ce discours-là, on n'avait pas envie, même le discours de la violence incarnée par les femmes, on a en fait... Être une femme dans les corps de l'armée, encore une fois, elles ont existé, mais il fallait pas qu'on les retienne. Et du coup, elles n'ont pas donné leur nom aux rues, elles n'ont pas donné, elles sont pas rentrées dans les livres d'histoire. Encore aujourd'hui, même nous, d'un point de vue occidental, quand on étudie la bataille de Stalingrad, dans nos manuels scolaires, on parle pas des femmes et de l'engagement qui est unique dans l'histoire de toutes les guerres. Et donc après, évidemment, quand elles ont pris la parole quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, leur discours, évidemment, était très transgressif. Donc là encore, elles ont été censurées et l'œuvre de Svetlana Alexievitch a été censurée pendant pas mal d'années. La censure n'a été reintroduite qu'en 2004. Donc c'est une œuvre qu'on connaît moins de l'œuvre de Svetlana Alexievitch, aussi parce qu'elle a subi une censure longue.
Donc c'est un petit peu une vision patriarcale de la guerre qui n'allait pas vraiment avec le travail de Svetlana Alexievitch, donc cette autrice qui a recueilli ses voix. Comment est-ce qu'on fait pour remonter des pistes quand au final il n'y en a pas en fait? Comment est-ce que Svetlana a pu recueillir des témoignages, peut-être des écrits ou des sources autres?
Eh ben, elle a vraiment fait un travail dans un premier temps qu'elle pensait être journalistique. Elle sortait de l'université, donc elle a passé une petite annonce pour dire si des femmes veulent me raconter comment elles ont traversé et comment elles ont été engagées dans la guerre. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle a reçu vraiment des centaines et des centaines de témoignages lui demandant de venir, puisqu'elle recueillait les témoignages à l'oral avec un magnétophone. Et en fait, elle est passée de quelques semaines de travail journalistique à 7 années de travail qui l'ont menée vers une œuvre littéraire. Elle s'est vraiment transformée, Svetlana Alexievitch, au contact de ces femmes, parce que c'était aussi son histoire. Svetlana, elle est née en 48, donc juste après la victoire, comme il la nomme en ex-Union soviétique, et c'est quand même une partie de son histoire, elle, qu'elle ne connaissait pas. Donc auprès de ces femmes, elle a aussi cherché, ça elle me l'a dit quand je l'ai rencontrée à Berlin il y a un an et demi de cela, a dialogué avec ses parents, à dire mais pourquoi il y a des choses qu'on tait, pourquoi le stalinisme, on n'en parle pas, on n'en parle toujours pas. En fait, elle a recomposé une partie de sa propre histoire manquante auprès de ces femmes qui avaient 50, 60 ans, qui étaient aussi libérées d'un devoir conjugal, maternel, de carrière, et qui pouvaient aussi parler pour elles-mêmes. Elle a un rôle d'accoucheuse, c'est une femme oreille, qu'il faut que les femmes se redonnent naissance à elles-mêmes, parce qu'elles avaient 15, 16, 17 ans quand elles étaient engagées dans l'armée. En fait, c'est toute une adolescence, tout un pan de leur jeunesse qu'elles pensaient finalement tuer à jamais.
Et donc, tu as rencontré Svetlana Alexievitch. Comment ça s'est déroulé un petit peu votre rencontre? Est-ce que Svetlana a eu aussi un œil sur la mise en scène de « La guerre n'a pas un visage de femme »
Alors non, pas du tout. Elle était. Alors c'est son œuvre, c'est vrai, adaptée dans le monde entier. Donc je pense que c'était pas tellement la question de. Elle n'avait pas un point de vue. Elle avait une curiosité sur ce que j'allais en faire et quel était mon point de vue à moi. En fait, on était plutôt dans une rencontre d'artiste à artiste. Et je lui ai posé des questions, notamment sur certains manques de l'œuvre, notamment sur la question des viols, la question des femmes comme armes de guerre. Et je lui ai posé la question de pourquoi il y avait si peu de récits qui en faisaient mention. Et elle m'a dit, mais en fait, c'est pas la faute des femmes. C'est pas parce qu'elles n'ont pas voulu parler, c'est parce que moi, j'étais très jeune. Et quand même, dans un romantisme soviétique de l'époque, et je n'ai pas osé leur poser la question. Et elle m'a dit, mais fais-moi leur poser la question dans ton spectacle. Donc en fait, elle m'a fait comme une passation. Elle dit que c'est une œuvre qu'elle pourrait ne pas cesser de retoucher. D'ailleurs, elle a revu des femmes dans les années 90 après la chute de l'URSS. Puis après, elle a réintroduit la censure. C'est une œuvre, en fait, qu'elle trouve, et surtout aujourd'hui, avec évidemment la guerre en Ukraine et l'invasion russe, sur la question des territoires, sur la question de la place de la femme dans la guerre, qui a évidemment une modernité aussi dont elle prend conscience qu'à l'époque, en tout cas, elle ne pouvait pas être un sujet de ça. Donc ça aussi, ça a été un grand cadeau, puisque évidemment, moi, en 2025 et 2026, j'avais besoin aussi d'aborder certaines questions qui me paraissaient vraiment nécessaires et un grand manquement pour la femme que je suis aujourd'hui et l'équipe qu'on est de ne pas les aborder dans un spectacle d'aujourd'hui.
C'est une œuvre donc à compléter sans arrêt à force de passation entre différentes artistes. Au théâtre, justement, ça se passe comment pour donner une voix à des personnalités qui, à la base, étaient muettes ?
En fait, c'est la force de l'œuvre qui est un grand cri d'oralité quand même. C'est-à-dire que c'est des femmes qui... C'est pas des femmes qui racontent. C'est des femmes qui prennent pour la première fois la parole sur leur propre histoire. Donc c'est vraiment comme un jaillissement. C'est là où elles sont très transgressives. Mais c'est pas des femmes militantes, c'est pas des femmes dissidentes. C'est des femmes qui en fait sortent d'un discours officiel parce qu'elles ne l'ont pas entretenu. Donc il y a une sorte d'hyper-humanité avec des grandes différences entre les femmes. C'est-à-dire que l'œuvre de Svetlana fait aussi qu'elle a rencontré tellement de femmes qu'en fait on a autant de discours qu'il y a de femmes. Donc nous on a vraiment voulu garder aussi cet hommage à la différence et au faire ensemble. La différence avec le livre, c'est que ce ne sont que des entretiens individuels dans le livre, alors que la version théâtrale propose une fausse séance avec la journaliste, mais en groupe. Qui fait que, finalement, c'est aussi la parole de l'une qui va faire naître la parole de l'autre, et ça, c'est fictionnel. Mais on a aussi voulu, en tout cas, moi, j'ai voulu travailler sur la question collective aussi de ces manquements de récits qui sont politiques, puisqu'un manquement, c'est aussi une invisibilisation sociétale qui est bien, bien au-delà de la question uniquement de la guerre. Et du coup, l'acte du spectacle fait que la parole, c'est notre première héroïne. C'est toujours ce qu'on se dit entre nous. On a voulu, comme ça, recréer presque. L'œuvre, elle est magnifique, elle est écrite, c'est une œuvre de littérature. On a voulu recréer l'oralité première, de façon imaginaire, évidemment, qu'a recueilli Svetlana Alexievitch avec aussi sa fragilité, ses hésitations, le fait de se couper la parole. Retrouver une parole qui est tout aussi fragile, qu'elle est digne, qu'elle est courageuse et qu'elle est nécessaire.
Une parole nécessaire, mais fragile, mais aussi nécessaire que tout ce qui touche autour, justement, de ces conflits et de la, on va dire, revisibilisation des femmes. C'est un cri d'existence. La guerre n'a pas un visage de femme du 18 au 20 février à la Comédie. Merci beaucoup, Juliette Deliquet. Je rappelle que tu es la metteuse en scène de cette pièce.
Merci à vous.
Radio-Vostok.ch